de les comprendre.
Oh, pas de problème. Je comprends toujours vite quand on m'explique longtemps.
Donnez-moi la force de comprendre, car ces visions me semblent.
Ah, que ça me fait plaisir.
Ben oui, mais écoute, tu peux pas être plus dans le mille avec cette chanson-là. L'horloge de la fin du monde a été ajustée à 2 minutes avant la fin.
Oui, exactement. Exactement. Ça, je vous rappelle que l'horloge de la fin du monde, qu'on appelle Doomsday Clock, essentiellement, c'est une horloge symbolique. Hein, essentiellement, c'est un groupe de scientifiques, notamment des experts dans le domaine nucléaire, donc de toute la technologie nucléaire, les armements et tout ça, qui va essentiellement nous donner une image symbolique de la catastrophe finalement où on passe le point de non-retour si on veut au niveau de la planète et ça d'habitude ça considère divers éléments notamment les possibilités de guerre irrémédiable et donc ça fait toujours partie des arguments qui sont utilisés pour ajuster cette horloge là à titre d'exemple on est à moins de 10 minutes depuis le conflit entre le Pakistan et l'Inde. Donc, lorsque les deux ont fait des essais nucléaires dans les années 90, on parle en 98 essentiellement. Donc, c'est depuis cette époque-là qu'on est rendu à moins de 10 minutes. Mais l'année passée, on a avancé l'horloge de 3 minutes à 2 minutes et demie. Puis cette année, on l'a avancé de 2 minutes et demie à 2 minutes parce que, essentiellement, ce groupe de scientifiques-là estime qu'on s'est rapproché de la catastrophe et qu'on s'en est pas éloigné. Pourquoi? Deux facteurs principaux. Premièrement, il y a évidemment l'escalade nucléaire. Et l'escalade nucléaire, on la vit aux nouvelles presque à toutes les semaines lorsqu'on entend Trump et Kim Jong-un se relancer, se traiter de fou et ainsi de suite, alors que les deux ont la possibilité assurée du côté des États-Unis et probablement
pas mal
assuré en Corée du Nord, donc de déclencher un conflit nucléaire. En plus, on s'entend, les deux pays sont très éloignés l'un de l'autre, donc on s'entend que ça impliquerait presque les deux tiers de la planète s'ils se tiraient dessus mutuellement. Donc, un, il y a ça. Et deuxièmement, il y a aussi, les scientifiques soulignent aussi le manque de progrès pour endiguer les changements climatiques. Donc, essentiellement, on sait qu'ils sont là, mais on n'a pas vraiment progressé pour pouvoir les ralentir, comme c'était évidemment l'intention depuis les accords de Paris. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, premièrement, les scientifiques se sont attardés au langage frondeur, parce que c'est quand même des mots très durs qui sont prononcés de part et d'autre entre les États-Unis et la Corée du Nord, mais c'est pas tout. Parce que, non seulement ce langage-là ajoute de la chaleur à une situation qui est déjà bouillante, dangereuse. Mais il faut aussi savoir qu'il y a une certaine mésentente entre les États-Unis et la Russie, hein, qui sont les deux superpuissances nucléaires et qui devraient être les leaders pour essayer de calmer le jeu de tout le monde. Ben, le fait que les deux pays ne se parlent pas vraiment, ben, ça aussi, ça amplifie les risques de conflits nucléaires à l'échelle planétaire parce que ça devrait être les deux. Attends un petit peu. Moi, je m'occupe de ma gang, de mes alliés, puis toi, tu t'occupes de tes alliés, puis on calme un peu tout le monde. Parce qu'on a observé une augmentation de l'arsenal nucléaire cette année, pas juste aux États-Unis, ça a été affirmé, mais à d'autres endroits aussi. Donc, il y a une augmentation des arsenals nucléaires. Il y a aussi le fait que Trump est directement blâmé par ces scientifiques-là, qui sont des scientifiques américains en passant. Donc, c'est pas des Nord-Coréens qui décident de pointer le doigt vers Trump. Là, on parle de scientifiques américains qui blâment directement le président Trump pour différentes raisons. Premièrement, pour son manque de leadership dans ce domaine-là, qui s'exprime de différentes façons. Hein. Premièrement, il y a une réduction du nombre de diplomates à l'étranger, donc carrément moins de monde pour essayer de négocier des solutions qui sont non militaires, bien entendu. Le refus de reconnaître les progrès ou les efforts faits par l'Iran dans le cadre de l'entente nucléaire sur l'Iran. Ben, Trump, lui, depuis le début, il dit non, l'Iran, moi, j'y crois pas, puis ainsi de suite. Ben, ça vient affecter les relations et le fait que l'Iran pourrait peut-être dire, ben là, si on fait des efforts que vous les reconnaissez pas, peut-être que ça donne rien de se forcer, finalement. Donc, un peu tout ça, là.
Les années de laisser aller aussi avec la Corée du Nord, où on les a pas cru, puis on croyait pas qu'il était possible de faire quelque chose.
Évidemment, il y a eu une escalade. Et là, on on est rendu au bout, où ils ont la technologie et là, ils sont peut-être en mesure de pouvoir crier. Et finalement, si on parle des changements climatiques, ben on a observé beaucoup de catastrophes naturelles cette année, notamment dans les Caraïbes. Ça, tu peux en témoigner parce que tu es passé par là cette année. Des vagues de chaleur sans précédent à différents endroits de la planète. Des feux de forêt majeurs en Amérique du Nord. Pas plus tard que quoi, la semaine passée, il y a quelques jours à peine, on parlait des feux de forêt en Californie. L'augmentation d'émissions de gaz à effet de serre, la diminution de la superficie de la banquise en Arctique. Donc, pour toutes ces raisons-là, l'horloge, on est pas mal plus proche de minuit. Juste en terminant, là, elle sert à quoi cette horloge-là? Essentiellement, c'est un symbole, je le rappelle, qui sert, en fait, qui devrait juste servir à alimenter la discussion, donc à provoquer cette discussion-là. Demandez aux leaders internationaux de dire, pouvez-vous vous parler? Parce que là, la situation vient d'empirer essentiellement. Le fait est peut-être souligné, puis c'est pour ça que je vous en parle aussi, parce qu'une des intentions de cette horloge-là, c'est peut-être aussi de forcer le public dans des pays démocratiques à un peu forcer leurs entités politiques à dire « attends un peu, là, on peut-tu aller dans la bonne direction? On peut-tu faire des choix de société qui sont plus écologiques et tout ça? » Donc, c'est à ça qu'elle sert cette horloge-là, puis je voulais vous en parler ce matin.
Clonage de macaques en Chine.
Oh là là, ça c'est une énorme nouvelle et on va faire le portrait complet de ce que c'est. Première mondiale, c'est la première fois qu'on clone des mammifères, en fait des primates qui sont non humains, parce qu'on fait partie des primates, mais là on parle ici de macaques, donc des primates non humains. C'est le résultat de travaux de plusieurs années qui ont été faits par des chercheurs chinois, donc c'est en Chine qu'on a réussi à cloner. On a ici deux macaques femelles qui sont identiques d'un point de vue génétique, qui ont respectivement 8 et 6 semaines, et ce sont des clones d'une même source de cellules fœtales, donc des cellules provenant d'un fœtus de macaque. On a utilisé le code génétique de ces cellules-là pour produire deux nouveaux macaques qui sont identiques d'un point de vue génétique. Ils sont présentement en santé, ils vivent dans un incubateur. Et là, évidemment, il y a plein de questions qui entourent cette nouvelle scientifique-là. Je voulais vraiment vous en parler parce que ça, c'est quelque chose qui est très, très important, non seulement d'un point de vue recherche biomédicale et ainsi de suite, mais là, on vient de se rapprocher, on vient de franchir une barrière qui jusqu'à maintenant n'avait pas été franchie. On est pas mal plus proche de l'humain, là. Et lors du tour de table, tantôt, tu m'as parlé de Dolly, avec raison. Dolly, c'est le premier mammifère, c'est un mouton femelle. C'est le premier mammifère qui avait été cloné à l'aide d'une technique qui permet de prendre l'ADN dans une cellule d'un adulte ou d'un être vivant déjà constitué. Donc, de prendre le noyau d'une de ces cellules, on parle des cellules somatiques, donc des cellules qui constituent le corps et non pas des cellules sexuelles. Donc, vraiment une cellule d'une partie du corps de cet animal-là. On en sort le noyau qui contient donc tout le code génétique de l'animal et on injecte ce noyau-là dans un œuf. Et cet œuf-là, on provoque le déclenchement du développement de cet œuf-là maintenant qui contient un code génétique complet pour pouvoir l'amener à un embryon. Et lorsque l'embryon est viable, on l'implante dans une mère porteuse qui donnera naissance quelques mois plus tard, selon l'espèce, bien entendu, à un bébé normalement constitué. Ça, c'est le béaba de la technique. Là, je vous fais grâce de tous les détails fins de la chose. C'est ça qu'on fait lorsqu'on clone comme Dolly et ce qu'on a fait avec ces primates-là. Là.
Mais pourquoi il s'est écoulé tant? Parce que là, Dolly, on commence à remonter dans le temps.
1996, donc 21 ans.
Est-ce que le macaque est un être plus complexe?
Ben c'est ça. Et ça, c'était une des questions qui est très importante. Pourquoi c'est si long? Ben il faut savoir que en prenant cette technique-là, on prend quoi? Donc, je le rappelle, on vient de prendre des cellules d'un être vivant qui est déjà adulte ou qui est déjà avancé dans le temps. Là. Et là, on veut faire croire que c'est de l'ADN d'embryon. Donc, il y a toute une suite de processus biochimiques qu'on doit faire pour faire croire à l'œuf que l'ADN qu'on vient de lui donner, c'est de l'ADN d'embryon. Donc, l'ADN qui vient d'être constitué, non pas de l'ADN qui a un certain nombre d'années déjà.
Okay.
Et ça, la recette pour modifier l'ADN, pour donner l'impression à l'œuf que c'est de l'ADN d'embryon, c'est pas simple. C'est très, très compliqué parce que de renverser l'horloge génétique, là, c'est pas si simple que ça. Et dans le cas des macaques, les chercheurs chinois ont dû tester plusieurs recettes pour avoir un ADN qui, là, va fonctionner dans cette technique-là. Donc, c'est ça qui a aurait pris du temps. Comment on peut ramener l'horloge génétique au niveau de cet ADN-là pour qu'on ait un embryon viable, essentiellement?
On parlait de questions éthiques qui étaient... au centre de tout ça, évidemment, là,
oui.
c'est pas différent cette fois-ci. Hein.
Non, vraiment pas. Et là, il y en a plusieurs. Parce que la première, c'est quoi l'intention derrière le clonage de primates comme ça? Bien, l'intention annoncée déjà par les chercheurs, qui est très louable, c'est le fait d'être capable de produire un certain nombre d'individus qui sont tous identiques. Ce qui fait que lorsqu'on fait des recherches biomédicales, par exemple, si on veut tester un médicament, on vient de contrôler un paquet de facteurs. Donc, on est capable d'avoir moins d'animaux, des animaux plus uniformes, et donc d'être capable de faire des tests plus rapidement pour tester tel ou tel médicament potentiel. Ça, c'est un. Le problème de ça, en fait, il y en a deux. Le premier problème, c'est que le fait même de faire de la recherche sur des primates, c'est déjà un élément controversé. Il y a déjà des gens qui trouvent ça difficilement acceptable d'utiliser des animaux qui sont aussi proches que ça de l'humain comme étant des commodités jetables. Donc, il y a déjà une certaine controverse là-dessus. On part de là. Le deuxième élément, c'est qu'on vient de franchir une barrière qui nous mène pas mal plus proche des humains qu'avant. Là, on s'entend. Là. Parce que là, tu viens de régler un paquet de problèmes avec le clonage de primates que tu... qui n'était pas réglé quand tu clonais une vache, un chien ou une brebis, par exemple. On s'entend. Donc là, tu es pas mal plus près. Donc, on s'entend que, en fait, le consensus, c'est que cette technique-là pourrait mener, si on voulait le faire, d'ici quelques mois à quelques années, carrément au clonage d'êtres humains. Les chercheurs de cette étude-là disent que c'est pas leur intention, mais c'est pas parce que c'est pas leur intention que c'est impossible.
Rael voulait pas faire ça, lui-là?
Ben oui, lui, il disait même qu'il était déjà capable, et on s'entend que sa crédibilité était pas mal à zéro. Mais dans ce cas-ci, là, on est vraiment pas mal plus proche. Là, c'est vraiment un accomplissement qui est reconnu et... Puis là, tu sais, dans ce domaine-là, j'ai l'impression des fois que c'est un peu... Il y a eu beaucoup de pelletage vers l'avant. Tu sais, que c'est genre, dit, ouais, mais tu sais, c'est pas encore une réalité. On n'est pas là, on n'est pas là. Pourquoi on en jaserait maintenant quand on n'est pas encore rendu? Ben là, on est rendu. Donc là, il va falloir que les autorités internationales se ressemblent, de voir comment on encadre ça, comment on empêche ça. Tu peux-tu imaginer des leaders de pays totalitaires qui disposent d'une technologie comme ça, d'être capable de pouvoir cloner des soldats uniformes? Puis là, il y a des histoires d'horreur, on s'entend. Hitler avec ses vues c'est pour ça, avoir une race aryenne et ainsi de suite, avec l'eugénisme et tout ça. On la veut pas tant que ça, cette possibilité-là scientifique, mais elle existe, je voulais vous en parler. Et donc, voilà, on est pas mal plus proche de ça. Voilà.
Dans un instant, la suite, Martin Carly, on se parlera entre autres, pourquoi préfère-t-on les objets physiques plutôt que numériques? Ah, la vie, hein?
Eh oui.
Monsieur Carly... On ne l'avait pas dit la semaine dernière, hein, mais vous avez. Puis, on va prendre 30 secondes pour expliquer ça aux auditeurs parce que j'ai trouvé ça tellement drôle. Denis Couture et toi, vous vous connaissez de quoi, depuis combien d'années?
C'est ça. Évidemment, on s'est perdu de vue depuis un gros bout de temps, mais on se retrouve là après. On parle de 88, 89, donc presque 20 ans. Donc, on
était pas mal plus 30 que 20, là.
Oui. Ça, c'est moi qui
88, 89.
Ouais, c'est ça, OK, 30. Effectivement, on était tous les deux, on avait le même emploi d'été. On était éducateurs à ExpoTech dans le Vieux-Montréal. Ça, c'est avant même la construction du Centre des sciences. C'était dans le temps que c'était les hangars à bateaux originaux avec les hangars qui circulaient dans les murs puis d'autres. Pis,
mais ça, il voilà. n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Là. Vous connaissez depuis 30 ans, c'est une chose. Sauf que les deux ont allumé la semaine dernière en studio en disant... Hey!
On se connaît!
On se connaît!
Eh oui, exactement.
Puis, malgré le fait que vous étiez déjà croisés ici, je pense que c'est Denis en plus qui a allumé.
Ouais, ben, on s'est vu, je dis, on se connaît, ah oui, de où? Puis là, on se met à jaser. Ben là, on était à ExpoTech ensemble, on faisait une collection de papier-monnaie ensemble et tout ça. Donc, ouais.
Ça, c'est drôle.
Franchement, très cool. Puis ça, c'est pas. On s'est pas redécouvert sur Facebook comme ben du monde, mais plutôt en vrai, dans la vie. Puis c'était bien le fun. Ouais.
Je vais partager cette petite anecdote-là.
Voilà.
Parlons de pourquoi les gens préfèrent les objets physiques plutôt que le numérique.
Oui, absolument. Toi, est-ce que c'est ton cas? Mettons un livre, est-ce mieux un livre réel plutôt qu'un e-book? Là? On s'entend, ou encore un CD ou un DVD plutôt qu'un, tu sais, commander ça sur iTunes ou ainsi de suite.
Oui, je te dirais, puis la musique, moins. Ça, je te dirais
mais
moins.
Mais au moins les livres. Hein,
les livres, papier, le journal.
Oui.
Je travaille, j'ai tous mes journaux en version numérique.
Oui.
Et je dois t'avouer que tous ceux qui sont à papier, regarde la pile à côté de moi. Là.
C'est ça, t'avoues rien, je te regarde présentement.
Exactement, c'est un fouillis.
Exactement. On dirait que mon bureau est ici en studio, mais devant toi. Ben écoute, tu es comme la majorité des gens qui préfèrent les objets physiques à des objets numériques. En fait, il faut savoir, bien entendu, que tout ce qui est numérique, lorsqu'on a numérisé bien des choses qui nous intéressent, ben on avait là, ou on a là, une solution qui permet de combattre l'accumulation d'objets dans la maison, qui permet aussi une certaine gratification instantanée. Tu sais, des fois, tu dis, hey, ce livre-là, je viens d'en entendre parler à la radio, et pouf, en deux, trois clics, que tu es capable de l'avoir sur ton iPad. C'est quand même quelque chose de très, très cool. Mais les ventes physiques de livres et de films, de DVD, tout ça, illustrent quand même, puisqu'elles se maintiennent, que les gens continuent de préférer l'objet physique. Donc, d'avoir carrément un vrai livre dans les mains plutôt que lire ça sur un iPad. Alors, des chercheurs ont voulu savoir pourquoi? Eh bien, leur hypothèse de départ, c'est que les gens trouvent que un document numérique, quel qu'il soit, que ce soit un livre, un film, peu importe, a moins de valeur qu'un objet physique. Là, que les gens trouvent que ça vaut moins que donc un livre numérique, que ça vaut moins qu'un livre réel.
Parce qu'il n'est pas tangible.
Exactement. Ça, c'était leur hypothèse de départ. Alors, pour tester ça, ils ont fait différentes expériences. Première expérience qui se déroule dans la Old North Church à Boston, qui est une église historique. C'est là où des signaux auraient été faits par Paul Revere pour signaler le déploiement de l'armée anglaise. Donc, c'est un élément critique dans l'histoire américaine permettant la révolution américaine. Eh bien, dans cette église-là qui est visitée par plein de touristes, les chercheurs ont permis aux touristes, ils ont recruté plus de 80 touristes, et ils permettaient à ces touristes-là de prendre une photo avec un acteur qui était habillé comme Paul Revere, cette figure emblématique de la Révolution américaine. Et là, ils leur ont dit, vous pouvez payer ce que vous voulez pour la photo et tous les sous ramassés iront à une œuvre de bienfaisance. Donc, il y a un élément ici intéressant. Par contre, la moitié de ces touristes-là recevaient immédiatement, avant de déterminer la valeur qu'ils voulaient donner à cette photo-là, la moitié recevait une photo physique imprimée, oui. Donc carrément, et l'autre moitié recevait immédiatement un courriel avec la photo sous format numérique. Eh bien, sans surprise, même si les touristes estimaient que les coûts de production dans les deux cas étaient relativement semblables, que la photo soit imprimée ou pas, eh bien, le résultat, c'est que les touristes étaient prêts à payer pas mal plus de sous pour la photo physique que la photo numérique. Donc, ils lui donnaient plus de valeur, carrément. Et ça, c'était, ils ne savaient pas que c'était pour une étude ou quoi que ce soit. C'était vraiment dans ce contexte-là. Donc, les chercheurs ont voulu aller plus loin. Ils ont recruté des gens sur Internet, sur une plateforme comme Amazon. Ils ont recruté plus de 400 participants qui devaient s'acheter soit le premier livre de la série Harry Potter, La Chambre des Secrets, soit le film The Dark Knight, donc un des films de la trilogie de Batman par Christopher Nolan. Et là, ben, ils devaient estimer leur degré de possession, soit de l'objet physique ou de l'objet numérique. Alors là encore, eh bien, les gens trouvaient que lorsque c'était un objet physique qu'ils avaient, ils avaient le sentiment de le posséder plus, d'avoir un plus grand sentiment de possession sur un objet numérique plutôt que sur un objet numérique. Et si on leur demande de louer l'objet, donc louer le film ou louer un livre, par exemple, ben là, tout d'un coup, ce sentiment-là disparaît complètement. Pour eux, lorsqu'on loue, ben on trouve que l'objet numérique a la même valeur que l'objet physique. Mais quand on l'achète,
c'est sur la possession.
C'est vraiment le sens de propriété ici qui est dans le fond, sur lequel on travaille. Et les chercheurs arrivent à la conclusion que le sens de la propriété, c'est le facteur clé quand vient le temps d'assigner une valeur à un objet. Et ça, c'est franchement très intéressant. Et en plus, si les gens s'identifient plus fortement à un produit qu'ils vont acheter, par exemple, ils ont fait une autre expérience où des gens qui étaient très fortement identifiés à un film de Star Wars, Empire Strikes Back, donc
oui,
le deuxième, étaient plus enclins à payer cher pour la copie physique que des gens qui ne s'identifiaient pas à ce film-là, donc des gens qui n'aimaient pas vraiment ce film-là. Donc, il y a aussi une connexion personnelle qui vient jouer dans ce débat-là.
Et pourtant, tu as de moins en moins de lecteurs pour les appareils, justement, pour les supports qui sont physiques, là, les DVD, etc. Là.
Exactement. Mais malgré tout, les gens veulent avoir un objet physique parce qu'ils ont l'impression qu'ils le contrôlent plus ou qu'ils le possèdent plus. Et en terminant, et c'est ça qui est intéressant, on leur a fait aussi passer des tests psychologiques pour voir est-ce qu'au niveau du désir de contrôle, les gens qui veulent avoir l'objet physique ont de plus grands désirs de contrôle? Eh bien, oui. Ce sont des gens qui
veulent des plus contrôlants.
Donc, si votre chum ou votre blonde aimerait mieux avoir le dernier disque,
avec des top boîtes.
Je peux vous dire
ils risquent de vous poser souvent
des questions.
Ça explique des affaires.
Hein? Mais la vraie conclusion de tout ça, c'est que puisque le fait d'avoir des objets physiques, c'est pas un choix qui est très écologique. Là. Une époque où on a de la misère à combattre les changements climatiques et ainsi de suite. Le fait de les avoir sous format numérique, ça serait pas mal mieux pour la planète. Donc, les chercheurs soulignent qu'avec une telle étude, eh bien, il faudrait augmenter la tangibilité des supports numérique pour être capable d'avoir l'impression qu'on possède quelque chose un peu plus.
Ben,
peut-être
en odorama?
Stimuler plus le sens du toucher, par exemple, donc quelque chose qui est encore plus tactile. Donc, de vraiment aller stimuler ce sens de la propriété-là pour essayer de vraiment d'avoir un virage vers le numérique pour que ça soit pas mal mieux pour la planète. Ouais.
Martin Carly, merci infiniment.
Ça fait plaisir.
Intéressant. Bon, et je te suggère, si tu as du temps aujourd'hui, ces journées d'hiver dans les parcs de la CEPAC, à travers la province de Québec, les 13 parcs nationaux, incluant le Camp Mercier, le centre touristique du lac Simon et la station touristique Duchesnay. C'est gratuit aujourd'hui pour ceux qui veulent utiliser les services dans cette journée d'hiver. C'est aujourd'hui seulement, il faut le dire, journée d'hiver de la CEPAC. Il est 11h47.